Europe 1, il est 6h.
C'était plus facile de parler des États-Unis que de parler de ce qui se passe en France. Mais malheureusement, ce qui se passe aux États-Unis, nous aussi, on y a le droit ici.
Plus de 20 000 personnes hier à Paris, mais aussi Lille, Marseille, Lyon, bravant l'interdiction de rassemblement, elles ont manifesté contre les violences policières. À l'appel de la famille d'Adama Traoré, mort il y a 4 ans après une interpellation, ses proches font un parallèle avec le décès de George Floyd. Les États-Unis où les manifestations continuent, à Minneapolis, calme de retour, mais certains habitants et commerçants subissent durement les conséquences des récentes émeutes. Nous serons sur place. L'Italie rouvre ses frontières et les Français sont attendus cet été par les professionnels du tourisme.
J'espère qu'ils vont venir toutes les Français comme avant, tout doucement, pour venir manger comme ils faisaient d'habitude. S'il n'y a pas de Français, nous pourrons fermer.
Nous serons à Vintimille, première étape d'un tour de l'Europe du Sud post-confinement, série de reportages qu'on vous propose. Dans ce journal, ces petits patrons qui, ils le savent déjà, ne partiront pas en vacances l'été prochain. La crise économique frappe trop fort. Juillet, août, ce sera au travail pour enflouer.
Là, on a actuellement du travail jusqu'à fin août pour les chantiers qu'on rattrape et quelques nouveaux qui sont arrivés. On est vraiment en branle-bas de combat là pour étudier tout ce qui s'offre à nous, quoi.
Et puis, de la musique douce, pas de bagarre, de zombies à fuir, ce sont les jeux vidéo bienveillants, carton du confinement, et ça se développe. Votre invité à 6h40, Mathieu.
Témoignage en direct d'un Français de Minneapolis, Maxime Lefebvre, membre du staff de l'équipe NBA des Timberwolves de Minnesota, à 6h40, en direct des États-Unis sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix.
La vague de colère partie de Minneapolis après le décès de George Floyd gagne la France. 20 000 personnes rassemblées hier soir devant le tribunal de Paris contre les violences policières. Manifestation pourtant interdite par les autorités en plein état d'urgence sanitaire.
Rassemblement à l'appel de la famille d'Adama Traoré, jeune homme noir de 24 ans décédé en juillet 2016 après une interpellation violente. Ses proches ont révélé hier une contre-expertise médicale. Le plaquage ventral qu'aurait subi le jeune homme ce soir-là serait à l'origine de son décès.
Parallèle avec ce que vivent en ce moment les Américains, hier à Paris, début de rassemblement dans le calme, mais des incidents en fin de soirée, Théo Manval.
Aujourd'hui, quand on se bat pour George Floyd aux États-Unis, on se bat pour Adama.
Sur le parvis du tribunal, les pancartes justice pour Adama côtoient le slogan américain Black Lives Matter. Assa Traoré fait le parallèle entre la mort de son frère en 2016 et celle de George Floyd la semaine dernière. Et si la foule est aussi dense, disent Boubacar et Mustapha, c'est qu'on est finalement nombreux à avoir ressenti la même chose face aux images de Minneapolis en boucle sur nos télévisions.
C'était plus facile de parler des États-Unis que de parler de ce qui se passe en France. Mais malheureusement, ce qui se passe aux États-Unis, nous aussi on y a le droit ici.
Il est mort de la même manière, ils ont dit les mêmes mots avant de mourir. Je n'arrive plus à respirer.
Dans la foule, beaucoup de jeunes, le spectre partout du racisme.
On nous a jamais acceptés, on nous tolère. Même les adultes, on a peur de notre police.
Joey Starr, Abdelmalik ou Adèle Haenel sont là. En soutien à ces cris de colère pacifiques, mais à l'heure de la dispersion, entrent en scène les groupes de casseurs.
Ils ont brûlé des poubelles.
Je me suis dit que jusqu'au bout, on allait faire quelque chose pacifiquement, mais au final, il y a toujours des personnes pour salir ce qu'on a fait juste avant.
Et rendre presque inaudible, au milieu des débris d'abribus, le message originel du refus de la violence.
Sur Twitter, Christophe Castaner condamne une violence qui, je cite, « n'a pas sa place en démocratie ». D'autres manifestations sans débordement hier à Lille, Marseille ou encore Lyon.
Des rassemblements qui se poursuivent aux États-Unis. Les manifestants bravent souvent les couvre-feux. Ils étaient des milliers à Houston, Manhattan, Washington aussi, où les abords de la Maison-Blanche sont bloqués par des barrières.
À Minneapolis, point de départ de contestation, certaines rues sont dévastées après plusieurs nuits de manifestations parfois violentes.
Le quotidien de nombreux commerçants et habitants est bouleversé dans un climat déjà alourdi par évidemment l'épidémie de Covid-19. Le dernier recours est bien souvent la banque alimentaire. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Minneapolis, Xavier.
Le terrain vague à côté de la bretelle d'autoroute est désormais le seul endroit du quartier où l'on peut trouver à manger. Des dizaines de bénévoles s'activent à trier les donations tandis que les habitants se pressent autour des tentes de distribution. On vit dans un désert alimentaire ici, explique Paul, venu remplir ses sacs de couches, de pâtes et de céréales pour ses 5 enfants. Tous les magasins ont été pillés, vandalisés, aucun commerçant ne veut ouvrir, se lamente Linda derrière sa visière de protection. Je comprends que les gens veuillent se faire entendre, mais casser son propre quartier, ça me brise le cœur, dit cette femme âgée qui raconte ses difficultés pour se déplacer. Ici, c'était déjà un quartier déshérité et touché de plein fouet en plus par la crise économique, explique Shay, l'organisatrice de cette banque alimentaire improvisée. Dan, par exemple, raconte qu'il a perdu son boulot dans un magasin d'articles de sport à cause de la pandémie. Avec le déconfinement, il pensait retrouver son travail, mais ses espoirs sont partis en fumée. Le magasin a été brûlé, dit-il. Il ne rouvrira jamais. Fin de la distribution pour aujourd'hui, annonce Shay. Elle doit reprendre des forces, dit-elle, car sa banque alimentaire de fortune risque de rester ouverte encore longtemps. Minneapolis, Xavier Yvon, Europe 1.
Et hier soir, la situation a été calme dans cette ville de Minneapolis. Les États-Unis, toujours fortement touchés par le coronavirus. Plus de 106 000 décès désormais. Le cap des 30 000 morts est par ailleurs franchi au Brésil.
Europe 1, il est 6h06.
Touristes européens, venez en Italie. L'appel des professionnels transalpins du tourisme. Il faut sauver la saison touristique alors. Le pays, l'un des plus touchés par l'épidémie, rouvre aujourd'hui ses frontières aux Européens. À noter que pour les Français, y voyager est soumis à conditions.
L'Italie, première étape d'un voyage que vous propose Europe 1 à partir d'aujourd'hui. Des passages par la Grèce, les Balkans, la côte adriatique pour répondre à cette question. Comment l'Europe du Sud vit-elle cette sortie du confinement ? Ce matin, Vintimille à la frontière française.
Sur place, on n'a qu'une envie, que les touristes viennent. Jean-Sébastien Soldaini est l'envoyé spécial d'Europe 1.
Susanna a beau tenir sa plage au carré depuis 2 semaines, les transats restent désespérément vides, les clients italiens sont rares, alors c'est entre angoisse et impatience qu'elle attend ce 3 juin.
J'espère qu'ils vont venir tous les Français comme avant, tout doucement, pour venir manger comme ils faisaient d'habitude. C'est comme chez vous qu'à Menton, il n'y a que des Italiennes, ils vivent pour les Italiens, nous on vit pour les Français. S'il n'y a pas de Français, nous pourrons fermer. Perché sennò ti spari.
Sinon, on peut se tirer une balle dans la tête, reprend-elle en italien, geste à l'appui. Comme beaucoup, elle attend aussi la réouverture du marché de Vintimille, le plus populaire de la Riviera. Fabrizio Sorgi représente les commerçants ambulants et avec son collègue, il considère les touristes français comme leur pain sacré.
Venerdì, che per me era uno dei pilastri.
Le marché du vendredi était un des piliers de ma vie. 70% de mon revenu vient de ce marché. Pour moi, c'est la vie.
Le
retour des touristes, c'est une renaissance. Car si on perd la saison, on perd toute une année de travail.
Le marché ne sera rouvert que dans 12 jours, le temps de mettre en place les mesures sanitaires. En attendant, ils veulent accueillir les touristes du mieux qu'ils le peuvent, comme cette restauratrice qui diffuse la Marseillaise dans son établissement. Une façon de briser le silence des lieux ou bien de lancer un appel à la rescousse. Vintimille, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Ce reportage...
Enfin, imaginez un instant que vous êtes en vacances en Italie et que vous entendez la Marseillaise sur la plage. Ça peut vous surprendre.
Hein. Bon, ça peut surprendre.
Ça peut attirer, cela dit aussi.
Et c'est exactement ce que j'allais dire. Ce reportage et ceux à venir de notre série à retrouver sur Europe 1.fr.
Les restaurateurs français, ça y est, ils respirent un petit peu mieux, notamment en zone verte. Ils ont pu rouvrir complètement hier. C'était aussi le retour en classe pour certains collégiens et lycéens.
Eux ont pour salle de classe un open space. 9 enfants brestois, du CE1 à la 3e. Ils font l'école au travail de maman et papa. Un patron propose en effet à ses salariés parents de faire classe à leurs enfants dans les locaux de l'entreprise.
Bonjour Pierre Gadonex.
Oui, bonjour.
Vous êtes le PDG d'Hermétique, entreprise spécialisée dans le chauffage à granulés, située à Brest, une entreprise de 15 salariés. Pourquoi avez-vous décidé de créer cette école dans vos locaux ? Il le fallait absolument pour que vos salariés puissent revenir au travail ?
Oui, bien évidemment, 15 jours avant le déconfinement, on a eu les premières lignes du protocole sanitaire. Au niveau des suivis pédagogiques, on a très vite compris qu'aller faire l'école 2 jours par semaine allait devenir très compliqué, soit pour les parents, mais même en tant que chef d'entreprise, pour assurer la production de l'entreprise.
Alors concrètement, racontez-nous, décrivez-nous comment ça se passe, cette école à l'entreprise.
On a recruté une enseignante qui a de l'expérience, qui est anciennement enseignante dans l'éducation nationale. Donc on reçoit sous forme de padlet ou de classroom le programme qui est dispensé par les élèves, les professeurs titulaires de chaque élève. Et chaque matin, on fait la récupération de ces données-là et l'enseignante dispense les cours à chaque élève.
Et combien ça vous coûte ? Combien ça coûte à l'entreprise, ça ?
Bon, c'est un budget sur les 2 mois, quand on compte le salaire de l'enseignant, plus les frais repas, et puis quelques investissements pour la classe, on est sur 7 000 euros.
Alors l'enseignante, elle suit les programmes officiels. Vous êtes renseigné, je crois, auprès de l'Académie de Rennes, notamment.
Oui, on a pris contact avec l'Académie de Rennes. Au début, c'était pour avoir les listes d'enseignants qui étaient éventuellement disponibles. Et après, l'Académie de Rennes a pris l'initiative positivement et nous a suivis pour nous, nous proposer de, dans les meilleures conditions de, d'accueillir les enfants. Hein.
Et les enfants n'ont pas de devoir le soir. Hein. J'ai vu cette précision à noter toutefois. Pierre Gadonex, merci beaucoup. PDG d'Hermétique à Brest, vous avez créé donc cette école dans votre entreprise. Merci d'avoir été ce matin en direct l'invité du journal de 6h d'Europe 1.
Europe 1.
Dans un tout petit instant, la suite du journal sur Europe 1 et ces Français touchés au portefeuille par la crise du coronavirus qui savent déjà qu'ils ne partiront pas en vacances cet été.
Et puis des jeux vidéo bienveillants. Carton du confinement, on respirera un peu. À tout de suite.
Europe 1, il est 6h12, la suite du journal, Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix.
Offrir des congés aux soignants sous forme de chèques vacances, proposition de loi votée hier soir par les députés avant examen au Sénat.
Eux ont déjà fait une croix sur leurs vacances d'été. Ces artisans qui n'ont pas pu travailler pendant les 2 mois de confinement, ils reprennent doucement aujourd'hui, mais se mettre aux normes sanitaires, c'est souvent coûteux.
Et pour remonter la pente, pas le choix. Pour ces chefs d'entreprise contactés par Roman Hockey, il va falloir travailler tout l'été.
15 jours de vacances ou 3 semaines de vacances en moins, c'est vrai que c'est un peu dur, quoi. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut sauver l'entreprise quoi qu'il arrive, quoi.
Tant pis pour les vacances en famille, le chef d'entreprise sera sur les chantiers tout l'été. Avec le confinement, Gaël a perdu 25% de son chiffre d'affaires annuel.
Là, on a actuellement du travail jusqu'à fin août, entre les chantiers qu'on rattrape et quelques nouveaux qui sont arrivés. L'été va être crucial et surtout, là, on est vraiment en branle-bas de combat là, pour étudier tout ce qui s'offre à nous, quoi.
Le défi, c'est aussi d'avoir des bras pour répondre à cette demande. Impossible de prendre des vacances cet été. Certains artisans ont dû négocier avec leurs salariés. Chez Martine, esthéticienne, ça s'est fait naturellement.
Les salariés se sont proposés d'elles-mêmes de différer leurs vacances. Elles ont envie de sauver leur emploi. C'est une façon de participer, on va dire, à l'effort que moi j'ai fait en les mettant en activité partielle. Eh bien, elles répondent à ça en répondant présente si j'en ai besoin.
Des employés qui devront aussi être disponibles après l'été, en septembre, pour l'affluence de la rentrée. Les congés, ce sera cet hiver, explique Martine, une fois qu'on aura remonté la pente.
Et vous entendez hein, au micro de Roman Hockey ces artisans qui vont se priver de vacances parce qu'il faut rattraper la période du confinement. En France, il y a aussi ce débat qui a été relancé sur le temps de travail, par exemple, dépasser les 35 heures. Vous avez peut-être entendu, vous les réentendrez ce matin, le chantage des dirigeants de Ryanair auprès de leur personnel. Baissez vos salaires ou on devra licencier. L'après-Covid, la situation de crise économique qui se profile, est-ce que vous êtes prêts à faire ce genre d'effort? Ce sera notre débat à 8h30. On va aussi poser la question de ce qui est légal. Je vous attends au 3921 et sur le hashtag Europe 1, n'hésitez pas.
Allez Mathieu, ici on se relaxait pour finir. Vous n'imaginez peut-être pas que cette musique est celle d'un jeu vidéo. Oui, d'un jeu vidéo relaxant, bienveillant. Et les consoles,
c'est musique d'attente. Ne quittez pas. Un opérateur va vous répondre.
Non, les consoles, c'est pas seulement tirer sur des aliens ou jouer à la guerre, Mathieu. C'est peut-être la douceur.
C'est aussi appeler l'administration française.
C'est peut-être la douceur et l'émotion. Clément Le Saffre nous le raconte. Le créneau a cartonné pendant le confinement.
Cette musique, c'est celle d'Animal Crossing. Elle a rythmé les journées confinées de 13 millions de joueurs. Un succès fou pour ce jeu, aussi joyeux qu'apaisant, qui propose simplement de faire vivre une communauté sur une île déserte. Pas d'ennemis, pas de chrono et pas de stress. Une formule magique qui fait des émules. Plusieurs studios se sont réunis sous la bannière des Wholesome Games. Ils ont présenté 50 nouveaux jeux bienveillants, comme Kind Words au concept évocateur. Dans un environnement douillet avec une musique relaxante, il faut simplement écrire des mots gentils à envoyer au hasard à d'autres joueurs.
C'est vrai que
de l'émotion plutôt que de l'action XXL, c'est aussi le concept de The Spirit and the Mouse où l'on incarne façon ratatouille une souris qui aide les humains à aller mieux. Animaux toujours, Calico, dans lequel on doit gérer un bar à chat, promet également une expérience pleine de douceur. Souvent conçus avec des moyens limités, parfois même en financement participatif, ce ne sont pas les jeux les plus beaux ni même les plus impressionnants, mais ce sont des jeux qui font du bien.
Gérer un bar à chat. On a combien de vies quand on gère un bar à chat dans le jeu vidéo ?
Moi, ça me stresserait de gérer un bar à chat.
L'angoisse de Jérôme Lacroix ce matin. Merci beaucoup, vous avez certainement joué à ces jeux. Animal Crossing, hein, beaucoup, on en avait parlé déjà, merci. Merci Jérôme Lacroix, c'était le journal de 6h. À 6h30, nous serons avec François Geffrier.
Europe 1. La matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard, votre invité à suivre.
Et je vous l'ai dit, mon invité inattendu, Catherine Ringer, en concert aujourd'hui, mais sans public. À tout de suite.
Europe 1, il est 6h17, c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet de l'actualité, une voix que l'on n'attend pas pour en parler, Mathieu Béliard.
Le milieu de la culture, lourdement touché par la crise sanitaire du coronavirus, on en a beaucoup parlé. Tous les concerts annulés depuis le mois de mars. Pareil pour les festivals dont la saison devait battre son plein hein, ces jours de printemps. Ce matin, le festival parisien, festival écolo, Wheel of Green. Il aura bel et bien lieu sur wheelofgreen.tv en ligne. Ça démarre aujourd'hui et ça dure jusqu'au 7 juin.
Et votre invité inattendu est tête d'affiche du festival Wheel of Green, c'est la Rita Mitsouko, Catherine Ringer.
Bonjour Catherine Ringer.
Oh bonjour. Comment allez-vous, Monsieur Béliard?
Pas trop mal, et vous-même?
Bonjour aux auditeurs.
Démarrage aujourd'hui donc du festival Wheel of Green. Démarrage, si on peut dire, avec la crise du coronavirus, une version 2020 qui s'ouvre en ligne. C'est la première fois, j'imagine, que vous êtes en promo pour un festival sans public.
Oui, oui, c'est la première fois. On peut dire que c'est nouveau et intéressant, comme on disait dans le temps.
C'est intéressant. Est-ce que c'est frustrant, Catherine Ringer?
Bah, j'ai pas encore fait, alors je vais voir. Mais en fait, c'est un peu comme si on faisait une émission de télé ou un filmage, d'une certaine manière.
Vous allez enregistrer votre prestation aujourd'hui au Parc Floral de Paris.
On espère qu'il va pas pleuvoir.
Oui, il y a un léger risque. On va demander à Laurent Cabrol un peu plus tard pour la météo. Vous avez préparé ça comme un concert classique?
Oui, j'ai pris mes bottes, mon imper et un parapluie au cas où.
Vous avez préparé ça comme un concert classique?
Oui, il n'y a pas de public, il y aura un petit peu des gens quand même aussi, on ne sera pas complètement seul. On espère qu'on ne va pas faire fuir tous les oiseaux, papillons, hérissons et compagnie.
Vous avez pu répéter ces dernières semaines, préparer le concert?
Bah oui, on s'est revus parce qu'on avait terminé la saison il y a 5 mois, donc là on devait repartir il y a un mois, et donc on s'est revus et on a fait... On a revu tous les morceaux et on a fait aussi un filage avec un tout petit peu de public pour faire quand même un mini concert.
Dans quelles conditions est-ce que vous avez fait ça?
Les conditions de l'endroit où on était, c'est-à-dire un local de répétition, et il y avait 6 personnes qui sont venues masquées et qu'on connaissait pas vraiment, donc c'était bien quoi. Enfin, c'était des amis, des gens, chacun des musiciens ou des techniciens. Et comme ça, on a fait une répétition de concert aussi. Parce que quand ça fait 5 mois que vous n'avez pas joué, et puis que hop, c'est un peu comme un sportif, vous voyez, il faut quand même s'entraîner. Si vous faites un match important,
il faudrait pas se blesser.
Justement, vous n'avez rien foutu pendant 5 mois, c'est pas génial. Mais enfin bon, on va voir.
Votre tournée, Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko, a été évidemment stoppée net à cause du confinement. Deux dates, deux Olympias sont prévues à l'origine, les 17 et 18 septembre pour vous. Là aussi, on attend encore de savoir si...
C'est pas évident hein, que ce soit, parce qu'en fait c'était là maintenant et puis ça a été reporté au mois de septembre, mais c'est pas évident qu'on puisse le faire. Ça se trouve, tous les concerts vont être reportés à l'année prochaine, à partir de février-mars, j'en sais rien. Je peux pas vous dire, en fait, j'en sais rien. Je peux pas.
Il y a encore du suspense, évidemment.
Là-dessus, oui.
Le festival Wheel of Green, donc jusqu'au 7 juin. Il y a vous, Catherine Ringer, Beck, Métronomie, le rappeur Attic qu'on a pu découvrir dans la série Validé.
Je reste indétrônable. On me jette plus de bâtons dans les roues, c'est des troncs d'arbres, des dos argentés, arbore mon étendard. Plus d'une flèche à mon arc, au sommet de mon arc.
Vous n'allez pas vous croiser entre artistes, si?
Aucune idée.
Aucune
à
idée.
À mon avis, non.
Wheel of Green TV, c'est une plateforme en ligne. En fait, c'est un dispositif virtuel sur lequel les spectateurs pourront se promener et assister au concert depuis leur canapé, depuis leur salon. Là aussi, c'est un peu spécial comme public, un public à domicile, non?
Bah oui, je vous dis, c'est comme si on jouait pour des gens devant un écran, ce qu'on a fait quand même depuis longtemps maintenant. Ça.
Vous dites, on a l'habitude finalement. Vous n'avez pas l'air particulièrement décontenancé par cette organisation de festival?
Non, c'est vrai. Je ne le suis pas vraiment parce que je trouve que c'est dans la logique, quoi.
À l'origine, le festival Wheel of Green, c'est jusqu'à 80 000 personnes. Là, l'idée, C'était quoi ? C'était de ne pas s'apitoyer, de rester debout. La musique continue comme elle peut, mais elle continue ?
Bah, la musique, de toute manière, continuera toujours, quelles que soient à continuer à toujours exister, même chez les oiseaux, les humains, même s'il n'y a pas d'électricité, même s'il y a juste un bout de bâton pour taper et une voix pour chanter. Mais oui, je pense que ça fait partie de se dire, bah oui, on continue à être actif quand même.
Et puis c'est presque un entraînement pour vous, donc enregistrement aujourd'hui au Parc Floral. Et puis Vous participerez à la fête de la musique le 21 juin, bien sûr, sur France 2.
La même chose, ouais, même genre de truc. Je crois qu'on joue à l'ancien Bercy, c'est-à-dire Hôtel Arena, là,
ouais.
Mais vide.
Là aussi, ça doit être particulier.
Ça, c'est drôle, je trouve. C'est marrant quand même de faire des énormes salles vides.
Voilà. C'est amusant.
Ça, plutôt drôle, quoi. Voilà.
En tout cas, c'est une expérience, ça fera quelque chose à raconter. Catherine Ringer, ouais. Merci beaucoup.
Merci.
En attendant de vous retrouver sur scène avec du public, je veux dire, on pourra vous écouter dans We Love Green, le festival, jusqu'au 7 juin. We Love Green TV, la plateforme pour assister au concert en ligne. Merci beaucoup, Catherine Ringer.
Merci à vous.
Vous vous imaginez jouer à Bercy, enfin, c'est le rêve pour un musicien, non ? Jouer à Bercy, mais Bercy vide. Voilà. Merci beaucoup à Catherine Ringer d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. WeLoveGreen.tv pour les concerts en ligne du festival annulé, décalé. Mais le monde change, les festivals se jouent en ligne désormais sur votre canapé. 6h23.
Europe 1. Dans un instant, le meilleur et le pire des réseaux sociaux avec Paul Lassen sur Europe 1. La matinale d'Europe 1 à 6h25, vous êtes avec Mathieu Béliard.
Et avec Paul Lassen en studio avec nous. Bonjour Paul.
Bonjour Mathieu.
Le meilleur et le pire des réseaux sociaux. Et on apprenait hier, oui, cet accord entre le groupe TF1 et la chaîne Mediapro pour la diffusion de la Ligue 1. Événement dans le monde du foot. Sur les réseaux sociaux, on était surtout contents de reparler de ballon rond.
Après des semaines de débats stériles entre les présidents de clubs pour savoir si le championnat devait reprendre ou non, hier, enfin, sur les réseaux sociaux, on se réjouit d'un peu de concret. Oui, parce qu'on sait enfin où sonnera.
But à Guingamp.
But à Laval, surtout.
À Laval,
le fameux but à Laval. On sait enfin où sonnera cette petite musique du multiplex. Et la nouvelle arrive comme un soulagement pour les fans de foot qui n'avaient plus de quoi débattre depuis le 17 mars. Le grand coup du mercato, c'est Mediapro qui arrive à faire oublier les pleurnicheries d'Ola, s'écrit cet internaute. Pour un autre, la Ligue 1 n'a jamais autant fait parler d'elle, alors qu'elle était dénigrée chaque semaine. C'est dire combien le football nous manque. C'est ça le monde d'après.
C'est le retour de la Ligue 1 au premier plan, mais c'est aussi le retour de TF1 dans le football.
Oui, avec une nouvelle chaîne qui s'appellera Téléfoot, un vrai clin d'œil à l'émission historique de la chaîne créée en 1977. Qui n'a pas grandi en buvant son chocolat devant Téléfoot le dimanche matin, se demande cet internaute. Le retour de TF1 dans le foot, c'est génial, ça me rappelle les matchs de ma jeunesse, dit Kevin sur Twitter. Mais le retour du foot dans le groupe TF1, c'est aussi pour les internautes l'occasion de relier deux thématiques qui les passionnent, le foot et ça.
C'est
Koh-Lanta. Comme pour Koh-Lanta, nous allons diviser les matchs en deux. Rendez-vous dimanche prochain pour la seconde mi-temps de Angers-Lens, ironise un fan de la télé-réalité d'aventure. Pendant qu'un autre imagine déjà les récompenses de l'émission, pardon, vous remporterez l'épreuve de confort. Ce qui vous permet, attention surprise du chef, de voir l'intégralité de Dijon-Metz. Ça fait rêver.
Malheureusement, la joie des internautes n'a pas duré très longtemps.
Alors que tout le monde se posait des questions, certains matchs seront-ils en clair ? Combien coûtera l'abonnement ? Beaucoup d'espoir, mais au final, grosse déception. TF1 ne diffusera aucune rencontre gratuitement. Et ceux qui veulent suivre le championnat devront débourser 25 euros pour 8 matchs de Ligue 1. Et la compétition poubelle qu'est l'Europa League, ce sont des fous. Je regarderai illégalement en streaming, dit un internaute, pendant qu'un autre compte sur son âge. J'espère qu'ils vont prévoir un tarif étudiant, écrit-il.
Bon, pourtant, malgré les réserves, il y en a un pour qui les internautes sont prêts à payer.
Oui, souvenez-vous, c'était il y a 2 ans.
Allez, second poteau, Pavard.
Le but de Benjamin Pavard en Coupe du Monde face à l'Argentine avec au commentaire le journaliste Grégoire Margoton. Et ce choix de Grégoire Margoton pour commenter les plus grosses rencontres de Ligue 1 est salué unanimement. On va réentendre la douce voix de Margoton en fond sonore de nos futurs buts dans le derby. Je suis ravi, dit cette supportrice lyonnaise. Si Margoton recommente la Ligue 1, je vais chialer de joie. Prends mon argent, Mediapro, écrit Filou Sport sur Twitter. Un retour qui fait également plaisir au principal intérêt
intéressé, heureux de retrouver le championnat avec son compère Bichente Lizarazu. Je suis affûté comme une lame, la Ligue 1, c'est comme le vélo. Mais malgré la réticence de certains sur le prix de l'abonnement, le dernier mot revient au chanteur Renaud pour plusieurs internautes.
La qui me dit qu'est-ce que tu fais planter là, t'en as pas marre de ces marioles, t'en as pas marre leur tronche de rage, je lui réponds j'en ai rien à foutre, mais je veux pas rater Téléfoot.
Un classique en plus. Oui, j'avais oublié cette chanson de Renaud. Merci beaucoup Paul Lassène, et ça fait du bien de reparler de football un petit peu. On attend de voir ce que donnera le retour du foot chez TF1 la saison prochaine. Merci Paul Lassène. 6h29, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Et vous dire, Paul, que les orages seront là, hein. Ces orages seront présents aujourd'hui, mais ils sont pris un petit peu de retard et ils vont se déclencher à partir de midi. Des averses isolées sur la vallée de la Loire et la région parisienne. Paris, tout à l'heure, Catherine Ringer était s'inquiéter pour...
Oui, j'ai oublié de vous demander, oui.
Oui, oui, mais je crois qu'il y a quand même un petit risque d'orage, attention, hein. Sur la capitale, ça va se déclencher dans le courant de l'après-midi et le soir, surtout sur la Seine-Maritime, les départements du Sud, l'Essonne et les départements... de l'Est, la Seine-et-Marne. En ce qui concerne maintenant, donc prudence sur Paris, hein, en fin de journée. Les orages forts vont se manifester vers midi dans le massif pyrénéen, remontant vers le massif central, l'Occitanie, l'Aveyron et tout le massif central en fait sera touché vers midi pour ces orages de forte puissance. Cet après-midi pour la Provence, la Côte d'Azur et la Corse, des orages forts à très forts avec de la grêle en région Rhône-Alpes, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Berry. Vous l'avez compris, les deux tiers de la France seront pris par la zone orageuse et un peu à l'écart les régions qui se situent près de l'Atlantique et celles qui se situent près de la Manche.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. François Geffrier est avec nous. Bonjour François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 6h30.
Il y a beaucoup de sourires. Même à travers les masques, on les ressent, que ce soit au niveau des clients comme au niveau de nos équipes. On a un comportement des clients qui est exemplaire.
Le sourire et la joie retrouvés hier dans les restaurants. Nous serons à Toulouse. Des témoignages dans ce journal, ceux de salariés de Ryanair, compagnie aérienne accusée de faire du chantage à l'emploi pour baisser les salaires. Les municipales, avec des rapprochements entre la droite et les marcheurs, pas toujours au goût des états-majors de leur parti. Et puis, la fin du journal se fera en courant, basket au pied. Il paraît que les nouveaux joggeurs du confinement veulent continuer sur leur lancée. Votre invité dans des minutes, Mathieu.
Un Français de Minneapolis, Maxime Lefebvre, membre du staff de l'équipe NBA des Timberwolves du Minnesota. C'est juste après ce journal, dans une dizaine de minutes seulement. Très bon réveil à tous. Il est 6h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Dans les zones vertes, hier soir, bien des restaurants ont dû faire leurs meilleurs chiffres de toute une année. L'impatience était là chez les clients, privés d'une bonne table depuis 2 mois et demi.
On va faire le bilan de cette soirée avec Benjamin Péter qui a dîné en compagnie de Toulousains et Toulousaines, affamés et ravis.
C'est merveilleux, je suis très contente. Il y a un retour à la norme, petit à petit les habitudes reprennent et vraiment c'est plaisant.
Marine est attablée avec 3 amis. Elle ne pensait pas savourer autant ce moment. En face d'elle, Lucas lui aussi goûte à cette normalité retrouvée.
Trop content, c'est le premier jour enfin qu'on a l'impression de revenir il y a 3 mois. Le masque, on peut l'enlever un petit peu sans être vu comme un alien.
Vous l'avez à la main quand même le masque.
Je l'ai à la main parce que de toute façon si on va aux toilettes on est obligé. Hein.
Vous avez fait votre choix.
Les serveurs s'activent avec des masques. En cuisine, c'est gants obligatoires. Pour Benjamin Serra, le patron du Prima Lova, c'est un soulagement de pouvoir ouvrir.
Il y a beaucoup de sourires. Même à travers les masques, on les ressent, que ce soit au niveau des clients comme au niveau de nos équipes. On a un comportement des clients qui est exemplaire. De eux-mêmes, ils font attention, ils rentrent avec le masque d'eux-mêmes. Il y a encore un petit peu de retenue, c'est-à-dire qu'on voit des clients qui hésitent. Il y a encore beaucoup de consommation à emporter. Mais je pense que dans une semaine, ça sera oublié.
Malgré tout, avec l'espacement des tables, il perd un tiers de la capacité du restaurant et s'inquiète pour sa rentabilité. Il a fait une demande d'extension de la terrasse pour compenser le manque à gagner, une demande qui devrait être rapidement étudiée par la mairie. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Ce qui reste interdit, en revanche, ce sont les rassemblements de plus de 10 personnes. Dans ce contexte, des images frappantes. Environ 20 000 manifestants réunis autour du tribunal de Paris hier soir, venus soutenir la famille d'Adama Traoré, un jeune homme noir mort lors de son arrestation en 2016, mais aussi pour scander des slogans entendus ces derniers jours aux États-Unis après la mort de George Floyd.
Revenons sur cette nouvelle affaire Ryanair, une compagnie qui fait souvent parler d'elle pour ses méthodes radicales en matière de réduction des coûts. Et bien voilà que Ryanair propose à ses salariés de baisser leur salaire s'ils ne veulent pas être licenciés.
On parle tout de même de 10 à 20% en moins sur les fiches de paye, ce qui révolte le gouvernement français, mais aussi et surtout les salariés. Aurélien Fleureau.
Nous l'appellerons Pierre. Ce steward souhaite rester anonyme par crainte de représailles d'une compagnie qui vient donc de lui proposer de perdre une partie de son salaire pendant 5 ans.
Et on fait la politique de chantage. Pendant 5 ans, si on perd 300 euros tous les mois, ça revient à 15 000 euros de perdu sur 5 ans. Pour ceux qui malheureusement n'ont pas d'autre choix, ils vont finir par accepter. Autrement, ils se retrouveront à la rue et il y en a d'autres qui veulent démissionner si ça continue.
Pour les personnels navigants en début de carrière, le salaire tomberait à environ 900 euros net par mois. Inacceptable, estime Damien Mourgue, délégué syndical SNPNCFO de Ryanair.
Mes collègues, bien sûr, sont inquiets, nous demandent qu'est-ce qui se passe. On n'a pas vraiment de réponse à leur apporter, puisque nous n'avons aucun contact avec la compagnie.
Les pilotes sont également concernés, mais pour Olivier Rigazio, membre du bureau exécutif du SNPL, Ryanair n'est pas une compagnie en manque de trésorerie.
C'est une société qui est très agressive. Je suis même certain que ce n'est pas indispensable pour les finances de Ryanair. C'est juste la bonne occasion de baisser les salaires.
De son côté, Ryanair parle de mesures raisonnables et limitées dans le temps et rappelle que toute sa flotte est à l'arrêt depuis plus de 3 mois.
Et vous entendez donc ce chantage des dirigeants de Ryanair, mais au-delà de Ryanair, il y a tous ces débats. On parle du temps de travail, par exemple, en France, dépasser les 35 heures. Vous entendez aussi sur Europe 1 ce matin ces artisans qui vont renoncer à leurs vacances pour rattraper le manque à gagner du confinement. La reprise économique, êtes-vous prêt à ces efforts, justement, à des efforts pour relancer l'économie? Débat à 8h30 avec vous au 39-21 et sur le hashtag Europe 1.
Et puis aujourd'hui, Europe 1 vous aide à remplir votre déclaration de revenus. Le temps presse. Ce sont d'authentiques experts comptables que vous aurez au bout du fil en appelant le 39-21 à partir de 8h et jusqu'à 19h.
Europe 1, il est 6h35.
En politique, fini les tractations, les listes pour le second tour des municipales doivent toutes avoir été déposées en préfecture.
Et on observe ce fait marquant, des alliances dans plusieurs grandes villes entre La République En Marche et Les Républicains, y compris à Strasbourg. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
C'est une alliance pour gagner, pas un front anti-écolo. Au sein de la direction de La République En Marche, on minimise la fusion LREM-LR à Strasbourg. On affirme même avoir tendu la main aux écologistes sans succès. Sauf que si Strasbourg est une surprise, ça n'est pas un cas isolé. Lyon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Tours, Aurillac, Paris 5e. Les rapprochements entre des marcheurs et la droite se sont multipliés. Objectif, battre les listes de rassemblement de gauche. La République En Marche et les Républicains, un mariage contre nature. Des macronistes dénoncent des accords de boutiquiers destinés à sauver des places, fustigent des unions loin de leurs valeurs. Ça ne plaît pas non plus chez LR, un cadre tempête. Ils avaient le choix entre la défaite et le déshonneur, ils auront les deux. En réalité, ces fusions de listes embarrassent surtout les états-majors nationaux des deux partis. Un membre de la direction des Républicains se justifie. Ce sont des accords locaux, il n'y a pas d'accord national. Même tonalité à La République En Marche, où certains veulent même distinguer la droite Wauquiez de la droite Juppé, dont est issu le Premier ministre.
Cédric Villani, notez-le, sera l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15 ce matin. C'est devenu le sport national pendant le confinement. La course à pied.
Oui, et Corinne Boulou pour Europe 1 a interrogé des convertis du running qui courent toujours.
J'ai toujours ce bien-être physique, ce petit sursaut d'endorphine qui vient vers la fin de la course, assez inimitable.
C'est vrai qu'au début du confinement, on ne voyait que ces coureurs à pied qui s'emparaient de l'espace urbain délaissés le temps du confinement. Et parmi eux, de nombreux venus, comme Joséphine qui découvrait alors une nouvelle discipline.
Tout simplement pour juste prendre l'air, parce que moi je ne suis pas une runneuse du tout, je n'aime pas ça, et vraiment voilà, mais je me suis dit, bon, quelle solution on a pour prendre l'air? Et du coup, je m'y suis mise et j'ai fini par y prendre goût.
Et dans une étude commandée par le fabricant ASICS, 62% des personnes interrogées reconnaissent qu'elles ont bien l'intention de continuer à courir après en avoir découvert les bienfaits. Ce qui n'étonne pas Annette Sergent, ancienne championne du monde de cross, aujourd'hui entraîneur et spécialiste en préparation mentale.
La course à pied permet justement d'apaiser ces tensions, d'évacuer le stress. Il y a un apaisement, il y a la régulation de l'humeur, il y a une sensation d'antidouleur, sensation même d'euphorie, ce qui permet de lutter contre l'angoisse et le stress.
Un nouveau public que la Fédération française d'athlétisme espère conserver par le biais de courses connectées en attendant la reprise des compétitions.
Corinne Boulou en cette journée internationale du running.
Vous vous y êtes mis pendant le confinement particulièrement? Non, pas du tout.
Un peu d'abdos.
Oui, bon, on va pas faire de compète avec François Geffrier. Merci beaucoup François, c'était le journal de 6h30 à 7h. Nous serons avec Hélène Zélani tout à l'heure, il est 6h38.
Et sur Europe 1, vos questions de droit trouvent leur réponse avec notre expert juridique Roland Pérez.
Bonjour Roland.
Salut Mathieu, bonjour à tous.
Alors il y a des salariés qui resteraient bien en télétravail, si ce n'est que l'employeur peut, on le sait, légalement exiger leur retour physique dans l'entreprise. Mais il y a aussi des salariés qui sont impatients de retourner travailler sur le site de leur entreprise. Et dans ce cas-là, que se passe-t-il si l'employeur décide de les maintenir en télétravail? Est-ce qu'ils peuvent le refuser pour revenir travailler physiquement?
Alors Mathieu, le Premier ministre l'a dit, hein, le télétravail doit rester, quand cela est possible, la solution à privilégier, sans que toutefois le gouvernement ne l'ait clairement exigé par voie d'ordonnance, laissant ainsi les entreprises et elles seules, elles-mêmes, décider de la conduite à tenir. Ce qui signifie que les salariés qui ne souhaitent plus rester en télétravail ne peuvent pas pour autant exiger de leur employeur de revenir. Ce sont les chefs d'entreprise et eux seuls qui décident du retour au bercail des salariés dans la mesure où les conditions sanitaires préconisées ont été mises en place dans l'entreprise. Et si elles ne le sont pas, ou ne peuvent pas l'être, ou que l'entreprise n'a pu rouvrir, ou encore si le salarié, on en a déjà parlé, est dit fragile ou vivant avec une personne vulnérable, en ce cas, le télétravail continuera à s'imposer. En revanche, Mathieu, hein, si l'un ou plusieurs salariés d'une même entreprise a été autorisé à revenir, et pas d'autres, alors qu'aucune raison objective existe, comme la mise en place d'un système d'alternance de présence des salariés, dans ce cas-là, il pourrait s'agir d'une discrimination dans le traitement réservé à un salarié et qui sera fondé dans ce cas-là à se plaindre de cette situation anormale.
Et Roland, que pourra faire alors légalement, hein, le salarié qui pense être maintenu sans raison objective en télétravail ?
Il pourra saisir l'inspection du travail ou même le conseil des prud'hommes au choix pour voir juger du comportement qui sera considéré comme discriminant avéré, un comportement discriminant avéré de l'employeur, si c'est le cas bien sûr et s'il arrive à le prouver.
Merci Roland Pérez. Votre question de droit et la réponse de Roland Pérez tous les matins juste après le journal de 6h30 sur Europe 1.
Europe 1. La matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et de travail, il sera question à 8h30 ce matin. Vous avez entendu, hein, je le disais, le chantage des dirigeants de Ryanair dans le journal de 6h30. Baissez vos salaires ou l'on devra licencier. En France, le débat qui porte déjà sur certains éléments comme le temps de travail, dépasser les 35 heures pour répondre à la crise qui se profile ou alors renoncer à certains congés éventuellement. Ce matin sur Europe 1, vous entendez aussi ces artisans qui doivent renoncer à leurs vacances pour compenser la perte d'activité du confinement. Nous avons choisi de poser la question ce matin. Salaire, vacances, 13e mois, temps de travail, êtes-vous prêt à faire des efforts pour relancer l'économie ? Que vous soyez patron, salarié, n'hésitez pas à intervenir ce matin. Gérant de boîte, 3921, c'est le débat à 8h30. J'attends vos témoignages. Dans un instant, nous sommes à Minneapolis avec un Français qui vit sur place. Les États-Unis toujours sous tension. A tout de suite.
Europe 1, il est 6h42. Votre invité, Mathieu Béliard, c'est Maxime Lefebvre, membre du staff de l'équipe NBA des Timberwolves de Minnesota.
Un Français à Minneapolis. Bonjour Maxime Lefebvre.
Bonjour, merci de m'avoir à l'antenne.
Merci à vous d'accepter de nous répondre en direct, hein, ce matin sur Europe 1 depuis les États-Unis. Votre profil, et je parle sous votre contrôle, français de 33 ans, installé aux US depuis 13 ans, aujourd'hui donc membre du staff technique des Minnesota Timberwolves, vous vivez à Minneapolis, d'où est partie cette mobilisation internationale. Après des jours de manifestations et d'émeutes, on est en fin de soirée pour vous. Comment s'est passée la journée ?
La journée s'est passée assez calmement ici, des manifestations pendant la journée, des manifestations pacifistes. Après, il y a eu de gros orages ici à Minneapolis, donc ça a aidé à garder les choses calmes. Mais dans le reste des villes américaines, ça continue toujours de manifester.
Oui, on va retrouver notre correspondant d'ailleurs à New York dans nos éditions dès le journal de 7h tout à l'heure. Qu'est-ce que vous observez, Maxime Lefebvre, de cette ville que vous connaissez, abîmée hein, par les émeutes ?
Oui, très abîmé par les émeutes, mais c'est vraiment un peu le... Minneapolis a été le précurseur de tout ce qu'on voit dans les États-Unis maintenant. Je crois que c'était un peu une bombe à retardement, quelque chose qui devait arriver. Et ça, l'événement George Floyd a été le détonateur d'une communauté noire qui en a ras-le-bol, mais je crois aussi d'un peuple américain en sa totalité qui en a un peu ras-le-bol aussi.
Bien sûr, on va en parler ensemble, Maxime Lefebvre. Mais d'abord, revenons justement à l'origine, le drame, la mort de George Floyd, tué par un policier asphyxié. Je crois que vous habitez, vous, tout près du lieu du drame.
Oui, à moi, je dirais 2 ou 3 kilomètres. Je passais en voiture juste devant là où ça s'est passé il y a peut-être 2 ou 3 jours avant que le drame arrive. Donc c'est un endroit que je connais assez bien.
Cette question des violences policières mêlée à la dénonciation du racisme aux États-Unis, est-ce que vous êtes surpris de ce qui se passe ?
Non, pas vraiment, parce que malheureusement c'est pas un acte isolé. C'est quelque chose qui arrive assez souvent, qui arrive plusieurs fois dans les dernières années. Et donc là, il y a vraiment un sentiment de ras-le-bol qui, je crois que la vidéo en elle-même tellement elle était abominable. Je crois que ça mobilise de plus en plus de monde. C'est dommage qu'on doit en arriver là pour essayer de faire, essayer d'amener du changement. Je sens vraiment un changement qui arrive.
Et ce qui se dit beaucoup, hein, c'est que ce genre d'événement tragique arrive. D'ordinaire, il n'est pas filmé. C'est une réalité du quotidien, vraiment. Je sais que ça paraît banal comme question, mais quand on est noir américain, c'est quelque chose que l'on subit au quotidien.
Ouais, c'est comme vous venez de le dire, c'est pas toujours filmé, ça finit pas toujours en drame, mais c'est quelque chose qui est vraiment quotidien. Moi, j'ai beaucoup d'amis noirs et c'est quelque chose dont ils parlent souvent. Toutes les personnes noires que je connais, ou presque, ont eu un événement ou plusieurs avec la police, qui certes n'est pas terminé en drame, mais qui les a marqués, qui les a beaucoup marqués.
Votre femme est noire, haïtienne. Votre enfant est donc métisse. Je lisais que les parents aux États-Unis désormais enseignent souvent à leurs enfants comment se comporter avec la police. C'est quelque chose, par exemple, vous qui êtes papa d'une métisse, c'est quelque chose qui vous inquiète ?
Oui, c'est inquiétant qu'on en arrive là, mais en termes de sécurité, ouais, c'est tous les parents noirs que je connais, c'est quelque chose qu'ils enseignent à leurs enfants, qu'ils leur enseignent beaucoup d'autres choses, quoi. Ça fait partie un peu de l'enseignement, malheureusement, hein, de savoir se comporter dans un contrôle de police.
Mais par exemple, qu'est-ce qu'on leur dit pour savoir se comporter dans un contrôle de police ?
Ce qui est important, c'est de garder les mains en vue de la police, d'expliquer tout mouvement qu'on puisse faire, si on va chercher son portefeuille, si on va dans sa boîte à gants, expliquer, le faire doucement, aucun geste brusque, éviter de regarder les gens dans les yeux, de ce genre de choses, donc vraiment faire tout pour ne donner aucune excuse à la police, quoi.
Ça fait 13 ans, hein. 13 ans, je le disais, que vous vivez aux États-Unis. Vous avez connu plusieurs États, le Texas notamment. Est-ce que cette situation, est-ce que ces craintes, c'est quelque chose qui peut remettre en question votre vie aux US ?
Je pense pas que ça remet en question ma vie aux États-Unis, mais c'est vrai que on se pose des questions. Comment est-ce qu'on peut améliorer cette société ? Parce qu'élever un enfant dans cette société où il y a un vrai problème de racisme, c'est vrai que c'est difficile. Mais après, si c'est pour, je crois que ces problèmes existent certes aux États-Unis, mais dans beaucoup d'autres pays aussi. Donc je crois que c'est plus nous en tant qu'humains qu'on doit essayer de changer plus que là où on habite, quoi.
Donald Trump, le président qui choisit la fermeté, nous le disions hier, il promet le retour à l'ordre, il mobilise l'armée. Que dit-on autour de vous aux États-Unis de la réponse du président ?
Ça dépend un peu de quel côté vous êtes. Un peu les personnes avec qui je suis. Je travaille en NBA dans un milieu très très divers, avec beaucoup de personnes d'origines différentes. Donc c'est sûr que pour eux c'est difficile d'entendre ces paroles et de lire un peu tout ce qu'il peut dire. Je crois qu'il met plus de l'huile sur le feu qu'autre chose. C'est vraiment dommage, quoi, qu'on a besoin d'un.
Mais vous sentez, pardon, Maxime Lefebvre, que justement vous disiez, ça dépend de quel camp, dans quel camp on se place. C'est-à-dire que vous sentez là que ça y est, il y a ce clivage, il y a peut-être la présidentielle au bout, et que là, les Américains choisissent leur camp.
Ouais, malheureusement, il utilise cet événement pour attaquer ses adversaires politiques. Et je crois personnellement qu'on a dépassé la politique. On a besoin d'un message d'unité. C'est un problème de juste et injuste, pas vraiment un problème de droite et de gauche en ce moment.
Merci Maxime Lefebvre. Merci. Témoignage précieux. Merci beaucoup.
De rien.
Je le rappelle, un membre du staff technique de l'équipe NBA des Minnesota Timberwolves, basket américain bien sûr, un Français installé à Minneapolis qui témoignait ce matin de la situation aux États-Unis. On continue d'en parler bien sûr dans la revue de presse internationale dans un instant, dans le journal de 7h avec notre correspondant à New York, Xavier Yvon. Très bon réveil à toutes et à tous. Merci encore Maxime Lefebvre, il est 6h49.
Europe 1. La revue de presse internationale à suivre. Également, nous serons en Équateur.
Oui, Équateur, Allemagne, Grande-Bretagne et Canada ce matin. Très bon réveil à tous.
La matinale d'Europe 1 avec Mathieu Belliard à 6h51, c'est la revue de presse internationale.
Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nous démarrons en Équateur avec Eric Sanson. Bonjour Eric.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle en Équateur ?
Selon la formule du quotidien L'Expresso, le mauvais traitement aux victimes passe la facture au gouvernement et la facture risque d'être salée, note le journal El Comercio, car la lutte pour récupérer les corps des victimes continue. 60 familles de Guayaquil ne savent toujours pas où se trouvent les cadavres de leurs proches ou si leurs cendres ont été remises à d'autres familles. Le site web Mega Noticias y voit le reflet du chaos qui a régné dans la ville au plus fort de la pandémie, mais se demande quand même comment des hôpitaux ont-ils pu perdre des corps. Même si El Universo note que le parquet équatorien a finalement mis un nom sur 48 des 133 cadavres non identifiés de la ville, le site Primicias précise que les familles ont perdu patience. Elles vont porter plainte contre l'État équatorien auprès de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, qui a récemment observé avec consternation le mauvais traitement réservé aux victimes de la pandémie à Guayaquil.
Merci Eric Sanson en Équateur pour Europe 1. Hélène Cola, Berlin, bonjour Hélène.
Bonjour Mathieu.
Qu'est-ce qui fait la une en Allemagne ?
On dirait un jeu télévisé et il tient en haleine la presse allemande depuis hier. À qui le corona pognon, demande le Bild. À la clé, il y a 80 milliards d'euros que le gouvernement Merkel veut injecter pour soutenir l'économie et aider la population allemande. Mais à qui donner l'argent exactement ? Ça coince depuis des heures sur les aides à l'industrie qui favorisait la filière automobile, les technologies vertes. Les négociations interrompues cette nuit doivent reprendre aujourd'hui à 15 mois des prochaines législatives. Chacun veut servir sa clientèle, note le Berliner Zeitung. En revanche, ce qui fait l'unanimité, c'est qu'il faut aider rapidement les familles qui devront être indemnisées pour les mois sans école ou sans crèche. 300 euros par enfant. Au moins, ce Kinderbonus va même être doublé dans certaines régions et les déductions d'impôts multipliées par 3 pour les parents isolés.
Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1. Elodie Goulès qui est à Londres. Bonjour Elodie.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle en Grande-Bretagne ?
Ce dont on parle ici au Royaume-Uni, c'est du sex ban, traduisez l'interdiction d'avoir des rapports sexuels. Rebaptisée ainsi par la presse britannique et les réseaux sociaux, cette nouvelle législation a été mise en place en début de semaine afin de contrôler l'épidémie de Covid-19 tout en assouplissant le confinement. Officiellement, cette loi interdit à 2 personnes de maisons différentes de se retrouver en intérieur pour quelconque activité. Si vous êtes en couple mais ne vivez pas ensemble, adieu donc les câlins en amoureux. Sur le plateau de Good Morning Britain, une émission de télé matinale, le présentateur Piers Morgan s'est moqué de cette législation, pointant tout de même des exceptions pour les athlètes professionnels par exemple, qui peuvent s'entraîner en intérieur si nécessaire. Une amende de 112 euros pourrait être attribuée aux plus pressés de se retrouver, mais le gouvernement ne dit pas comment il compte effectuer ces contrôles.
Merci Elodie Goulesque à Londres pour Europe 1. Et puis, dans cette revue de presse internationale, je voudrais vous proposer un document étonnant. Un son, comme on dit en radio, un silence en l'occurrence. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, interrogé hier lors d'une conférence de presse sur la situation aux États-Unis. Au moment de commenter l'attitude et le discours de Donald Trump, il est apparu pour le moins embarrassé.
Vous avez hésité à commenter les paroles et les actes du président américain, mais Donald Trump appelle maintenant à une action militaire. Nous avons vu des manifestants visés par des gaz lacrymogènes pour une opération de communication du président. Je voudrais vous demander ce que vous pensez de ça. Et si vous ne voulez pas commenter, quel message pensez-vous envoyer ?
C'est ce silence que je voulais que vous entendiez. 22 secondes de silence. Interminable, impassible Justin Trudeau. Est-ce qu'il réfléchit ? Est-ce qu'il hésite ? On entend les oiseaux, on entend déglutir. Et après 22 secondes, enfin, sa réponse.
Nous regardons tous avec horreur et consternation ce qu'il se passe aux États-Unis. C'est un moment où les gens doivent se rassembler. Mais c'est aussi un moment pour écouter, apprendre quelles injustices persistent malgré des années et des décennies de progrès.
Et vous retrouverez facilement la vidéo impressionnante. Mais il n'y a rien à voir, hein. Ça ne bouge pas. Justin Trudeau, impassible. 22 secondes de silence. C'est long en radio, 22 secondes de silence. Très bon réveil à toutes et à tous. C'était la revue de presse internationale. Cette fenêtre que nous ouvrons sur le monde tous les matins sur Europe 1, 6h55.
Europe 1. Dans un instant, le journal et la météo avec Laurent Cabrol. 6h58, Mathieu Bellière sur Europe 1.
Une initiative dont je voulais vous parler, je reçois le directeur général du boncoin.fr ce matin, c'est à 7h40. On va parler de l'initiative du Boncoin pour soutenir le tourisme en France, mais je poserai quelques questions aussi sur l'emploi. Figurez-vous que j'ai appris en préparant l'interview que le Boncoin, c'est le 2e site d'emploi privé en France. On va en parler à 7h40, ce sera avant l'opinion de Nicolas Bétou. Français, il faut se remettre au travail, vite. Vite, nous dit Nicolas Bétou dans ce plaidoyer. Eh bien justement, de votre travail, on va parler à 8h30. Dans quelles conditions ce travail ? Dans quelles conditions cette reprise économique pour contrer, peut-être éviter cette crise que l'on nous annonce. Il y a des débats sur le temps de travail. Est-ce que vous êtes prêt à travailler plus de 35 heures? Peut-être à renoncer à certains congés? Peut-être à rogner sur vos revenus? Voilà le genre de proposition qu'on peut entendre sur ce monde d'après aujourd'hui. Concrètement, pour la reprise, êtes-vous prêt à faire des efforts? Salariés, mais aussi gérants, patrons, prenez la parole au 39-21. Quels efforts demandez-vous à vos salariés? Tiens, dites-le nous ce matin, on va en parler à 8h30. Ce sera évidemment sur Europe 1. 6h59, Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, et vous savez, cette zone météo qui est arrivée dans la nuit, cette puissance orageuse a pris un petit peu de retard, je le disais, à 5h. Alors avant d'avoir un petit détail de ce qui va se passer, je voudrais, avant d'ouvrir le rideau, si en quelque sorte, planter le décor. Cet après-midi, vous aurez sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse, des orages qui vont éclater, certainement assez forts. Avec de la grêle, des orages forts et très forts sur Rhône-Alpes, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Berry. Sur la vallée de la Loire et la région parisienne, des averses isolées. Puis des orages à partir de l'après-midi et de la soirée. Sur Paris, ils seront plutôt dans le sud et dans l'est, mais la capitale n'est pas à épargner. Un peu à l'écart de cette zone orageuse, la Haute-Normandie, la Picardie, le Nord, les Charentes-Maritimes, la Gironde, le Pays Basque et la Loire-Atlantique. Je pense n'avoir oublié personne. Sur le bassin méditerranéen, le temps sera également très agité. Voilà, vous savez l'essentiel, des températures entre 23 et 27 degrés.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Accueillons en studio avec nous Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, disais-je, vous écoutez Le Monde Changer.
Il est 7h.